Dans notre voyage de Source Seine à la mer, où on descend le fleuve en allant vers le Havre, nous arrivons maintenant à Rouen et nous sommes donc dans cette ville qui est la ville de Flaubert, de Jeanne d'Arc et de Le Canuet, un personnage également considérable de l'histoire nationale. Et c'est dans cette ville que je vais vous parler de la Cour de cassation et des duellistes. Nous voici donc, je reviens un moment quand même devant le bâtiment, devant le palais de justice de Rouen. C'était autrefois le Parlement de Normandie. La plupart de ces anciens parlements sont devenus des cours de justice. Et c'est ici que quelque chose nous dérange, je dois l'avouer. On a affaire à un édifice foisonnant, superbe, presque délirant, une sorte de rêve de pierre et madrépore, comme disait la Varande. Bref, le palais de justice de Rouen a de quoi inquiéter le justiciable. Il y a l'ancien palais de style Louis XII, début XVIe siècle. Il y a l'aile ouest que nous voyons en face de nous ou à gauche, là, avec son clocher gothique flamboyant. Et tout ça forme un ensemble de complexités mystiques, de détours et d'attention aux détails qui inquiètent le prévenu, dans tous les sens de ce terme. On croirait un avertissement. Ne rentre pas ici sans crainte, justiciable. Les juges ne sont pas des mortels comme les autres. Ils habitent d'étranges palais. La procédure est un édifice impénétrable, parcouru d'escaliers qui ne mènent nulle part, et de tourelles d'où se jeter sur le pavé une fois qu'on ne vous a pas donné raison. Et puis, la justice, si elle habite là-dedans, dans cette espèce d'édifice qui tient à la fois de Chambord et l'hôtel de ville du Bocador, si la justice habite là-dedans, n'est-elle pas au fond la belle au bois dormant? Et qui peut se croire assez beau ou assez jeune pour la réveiller? Qui sait enfin si un sortilège dispensé au hasard d'un couloir baroque par un juge colleté d'hermine ne va pas vous transformer, vous qui veniez plaider une affaire de beaux ruraux, en entrepreneur de travaux publics concussionnaire, vous qui veniez pour une diffamation, vous retrouvez soudain divorcé d'office, comme il arrive parfois devant certains tribunaux du Caire. Ici, l'architecture réjouit, mais la justice inquiète, et c'est pourquoi je vous propose de nous réfugier dans la littérature, ou au moins dans l'entre-deux. Nous resterons d'ailleurs, ce faisant, assez fidèles à la mémoire de Marcel Proust, qui a placé dans ce bâtiment même l'un des pastiches les plus drôles de sa série Pastiches et mélanges, où Sainte-Beuve assassine, à force d'imbécilité biographique, Flaubert, décrivant dans une nouvelle une audience du tribunal correctionnel de Rouen. Mais nous, la correctionnelle ne nous va pas, nous irons aux assises et en compagnie d'Alexandre Dumas. Je vais vous raconter une histoire de lion qui a mal tourné. Alors, il ne s'agit pas du tout du zoo, mais de ces dandys qu'on appelait lions sous la Restauration et qui agitaient Paris de leurs frasques, comme on les voit sous une forme d'ailleurs atténuée dans le Comte de Monte-Cristo. Les curieux pourront feuilleter le petit livre d'Alfred Delvaux intitulé « Lion du jour, physionomie parisienne » qui est paru dans ces années-là, vers 1840. On y voit passer tous ceux dont je vais vous raconter l'histoire, et aussi un personnage criminel auquel je suis très attaché, qui s'appelait Ernest Sureau de la Mirande, et qui, pour l'amour d'une théâtreuse, a pillé un jour l'encaisse d'une succursale de la Banque de France avant de s'enfuir au Canada, d'où il fut extradé, ramené en France à Sainte-Pélagie, chargé de chaînes, donnant lieu à un arrêt célèbre de la Cour suprême canadienne. Mais ceci, comme le dit Kipling, est une autre histoire. Bref, en 1845, quelques jeunes lions donnent un dîner de célibataires dans un restaurant des boulevards. Dans ce dîner, il y a un nommé Rosemont de Beauvallon, un créole comme Dumas, voyageur intrépide, duelliste à l'occasion, joueur et grand tireur au pistolet. Et puis un journaliste exceptionnel qu'on a un peu oublié, qui s'appelait Dujarrier. Dujarrier était une grande célébrité de ce temps, il avait moins de 30 ans, il s'était associé avec Émile de Girardin pour fonder La Presse, qui faisait concurrence avec Le Globe pour publier de grands feuilletons. Et Dujarrier était à l'époque l'amant de l'extraordinaire Lola Montès, qui devait fasciner plus tard l'empereur Napoléon III. Vous voyez que les jeunes gens ne s'emmerdaient pas. Ce dîner n'est évidemment pas simplement un dîner de jeunes gens, il y a aussi des jeunes femmes, et notamment les plus belles actrices de variété de l'époque. Elles sont là, 5 ou 6, toutes très connues et absolument splendides. Bref, le dîner est à la fois joyeux, irrité et sensuel. Ce sont des jeunes gens superbes, fous d'eux-mêmes. Ils s'opposent pour des histoires de textes à publier, d'avaloir de femmes, et que sais-je encore, on gagne, on perd, on se doit sur parole, on joue, on l'en se connaît, en faisant alterner les potages, l'eau sucrée et l'absinthe. Dujarrier un peu gris, oubliant Lola Montès qui l'attend sagement chez lui, lance à une actrice, Anaïs Lieven. Anaïs, dans 6 mois, je coucherai avec toi. Une obscure querelle naît avec Beauvallon, et le lendemain, les deux témoins de Beauvallon se présentent chez Dujarrier, qui désigne les siens. On choisit le pistolet. Dujarrier n'a jamais tenu un pistolet de sa vie. Il se retrouve un matin sur le pré au chemin de la favorite, au bois de Boulogne. Dujarrier tire le premier et manque. Beauvallon lève le bras, vise soigneusement et abat Dujarrier d'une balle entre les deux yeux. Réprobateur, son témoin lui dit « Vous tirez trop bien, monsieur Beauvallon ». Le 13 mars 1845, on enterre cette gloire de la presse dans un cortège magnifique où les cordons du poil sont tenus notamment par Balzac et par Alexandre Dumas. Quant à Beauvallon, l'assassin, entre guillemets, il a fui en Espagne. Pour une raison assez simple, qui est que la Cour de cassation venait de changer sa jurisprudence. Pour le dire vite, jusqu'en 1837, elle considérait que la personne qui mourait au cours d'un duel n'était pas la victime d'un homicide, puisqu'au fond, il y avait une convention, que les deux parties s'étaient mises d'accord, qu'ils étaient en situation d'égalité, que les armes avaient été vérifiées, qu'il y avait des témoins, et qu'après tout, ils étaient réciproquement, en quelque sorte, dans une situation de légitime défense. Et c'est en 1837 que, sous l'influence du procureur général Dupin, la Cour de cassation change sa jurisprudence en considérant que cette situation d'égalité est factice, que les conventions du duel sont évidemment contraires à l'ordre public, et puis après tout, si on dit que c'est l'égalité qui compte et qu'un contre un ça va, pourquoi pas deux contre deux, quatre contre quatre, six contre six, et pourquoi pas des villages entiers. Bref, la Cour de cassation casse un premier arrêt de la Cour de Paris qui dit qu'il n'y a pas lieu de poursuivre le Beauvallon et renvoie tout le monde devant la Cour d'assises de Seine-Inférieure à Rouen, et c'est là où a lieu le procès. Je vous ferai grâce des détails du procès, mais l'élément passionnant, c'est l'irruption dans ce procès, en qualité d'expert, d'Alexandre Dumas, expert en honneur, en duel de tout genre, et Dumas qui venait de publier Monte-Cristo. Ce fut un épisode invraisemblable et qui fait rêver. Dumas, tel qu'en lui-même, improvisa un feuilleton qui transporta d'enthousiasme le public. Il entra dans la cour d'assises comme un roi, sommé de déclarer sa profession, répondit « Je dirais auteur dramatique si je n'étais dans la patrie du grand Corneille », ce à quoi le président, qui ne manquait pas non plus d'esprit, répondit « Monsieur, il y a des degrés suivant les siècles ». C'était une autre époque. Et puis tout y passa. Réduisant les protagonistes de ce drame, accusés, avocats, magistrats n'étaient plus que des figurants. Le procureur était Villefort, les témoins sortaient tous de l'auberge du Pont du Gard. Dumas commenta le code du duel de Château-Villard et plaida pour l'honneur et pour la mort. Ce fut éblouissant, absurde et, comme on dit aujourd'hui, un peu décalé. Mais en ce temps-là, où Hugo n'était pas vraiment apparu, le droit n'était pas réellement un instrument du progrès. On se demandait juste si les comportements correspondaient aux mœurs du temps, et sur le point de l'honneur, ces mœurs étaient hésitantes entre l'ancien monde et le nouveau. Dumas se fit intarissable, racontant les duels qu'il avait eus, et où Girardin et Hugo, précisément, avaient servi de témoins. On sait d'ailleurs que cette habitude a duré longtemps, et on a vu encore des résultats dans l'actualité récente. Les affrontements de Dijon, par exemple, entre les Tchétchènes et les Maghrébins, avec leur point d'honneur sous-jacent, ressemblent à ces guerres privées qui hantaient l'esprit du procureur général Dupin. Pourquoi pas 6-12 et les villages l'un contre l'autre. La drogue a remplacé les actrices, bien sûr, et les procès-verbaux sont signés dans une mosquée et non plus dans l'hôtel particulier de la comtesse de Morcerf. Mais au fond, tout ça n'est pas si différent. Quant aux duels de particuliers, on sait qu'ils sont restés longtemps à la mode. Proust contre Jean Lorrain, Apollinaire défiant Cravant, Clémenceau, bien sûr, et plus près de nous, Gaston Defer. J'avoue que le duel me fait moins rêver que l'irruption de l'écrivain dans les cours criminelles. En relisant les pièces du procès, je me suis laissé aller à imaginer toutes ces occasions manquées qui nous auraient réjouis. Julien Gracq, témoignant au procès de Rion avec les mots d'un balcon en forêt. Aragon, revivant la semaine sainte au procès des généraux d'Algérie. Tom Wolfe égayant la correctionnelle par une description coruscante des années 80 façon bûcher des vanités au procès de la faillite du Lyonnais. Et peut-être demain Welbeck au procès des Gilets jaunes ou Tesson à celui tenu par contumace d'un ministre concussionnaire qui aurait décidé de se perdre dans les solitudes glacées de la Sibérie. Magistrat, faites appel à la littérature. L'air du temps serait ennobli, qui sait, peut-être la justice en serait-elle meilleure. On la verrait apparaître dans le vrai costume de l'existence, ce qui est mieux que nu et sortant d'un puits, comme on dit que la vérité apparaît. La justice, disait un bon auteur du second rayon, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas apparaître de temps en temps, on cesse d'y croire. Pensons-y un instant. Devant cette façade illustre, à deux pas de l'endroit où Jeanne d'Arc fut brûlée, tout près d'ici. Après qu'ait témoigné contre elle, Peggy le rapporte, Pierre Sureau, receveur général des finances de Normandie et collaborateur des Anglais, dont je ne souhaite pas me réclamer. Le lion de Poitiers, lui en revanche, voleur pour les beaux yeux d'une actrice de boulevard, rapatrié du Canada sous les chaînes pour être enfermé à Sainte-Pélagie, suffit à mon bonheur. Comme l'honneur, l'amour a un prix.